Bonjour à tous. Pour cette nouvelle émission de la revue de cinéma Les Saisons, nous recevons cinq invités lectrices, amis et alliés qui vont lire le texte Constellation de la cinéaste Helga Fanderl. Cette lecture est une façon pour nous de célébrer cette nouvelle publication et pour la première fois l'édition des textes dans leur version originale, anglais et français. La revue de cinéma Les Saisons vient de faire paraître donc son troisième numéro, disponible en librairie, et nous rencontrerons au fil du temps et de cette année, et de prochaine, les écrits, les histoires, les voix et les films de cinéastes à travers des lectures, des projections et des rencontres. Le lecteur pourra découvrir dans cette nouvelle collection des textes de plusieurs cinéastes et artistes, les écrits de Liz Rhodes, Alexandra Cuesta, Sharon Lockhart, Larry Gottheim, Bruno Delgado Ramo et Helga Fanderl. Pour cette émission, Les Saisons ont invité cinq cinéastes, photographes, monteuses et artistes à lire le texte Constellation qui clôture ce numéro. Elsa Bress, Ouya Madad et les membres du comité du Camélia, Noureda, Karine Doumit et Mira Adoumier, collectif qui explore les formes hybrides de l'écriture de cinéma. Elles vont partager avec nous une lecture chorale de ce nouveau texte. Mais j'aimerais dire brièvement une chose ou deux du texte d'Helga avant de laisser la parole aux voix de nos lectrices. Il est composé de 18 fragments, qui sont chacun reliés à un film qu'elle a réalisé à l'intérieur d'une filmographie immense. De ces centaines de films Super 8, Atomes silencieux, Tournée montée, qu'Helga Fanderl réalise depuis les années 80, chacun esquisse une modulation singulière que les images nouent avec l'univers. Son texte Constellation emprunte le chemin du retour, ou plutôt le chemin de la résurgence de cette modulation infinie de l'image. Chaque fragment de ces constellations déplie un instant de cinéma. L'instant d'une saisie, d'une capture spontanée, d'un contact physique entre une perception et une action. Chaque fragment déplie un instant où le temps se contracte, où la caméra Super 8 prolonge le corps dans le monde. Chaque fragment porte le témoignage d'une simultanéité énigmatique entre le monde et le cinéma. Elle est une énigme pour une simple raison. Cette simultanéité ne peut être prescrite, elle ne peut être que trouvée. Les fragments étoilés du texte d'Helga témoignent de ce mystère, c'est-à-dire de ce qui précède un cadre, ou bien de l'attente de l'image, sa découverte, sa réminiscence, son désir. Le poète George Open disait de l'image qu'elle est un instant de conviction. Et c'est bien cette recherche intense que l'on ressent dans ces constellations. Cette recherche qui est surtout une musique qui donnerait à qui veut l'entendre le son de la clarté. Les 18 textes courts qui composent ces constellations et que nous allons écouter préservent cette exposition de la clarté. Mais la clarté dans le sens de transparence, de silence, dans le sens où pas grand-chose ne soit explicable, seulement l'exposition des matières, des circonstances et du hasard. Le cinéma d'Helga est empreint d'une réalité provisoire et fragile, si éperdument empreint de cette réalité que son essence réapparaît invisiblement sous nos regards. La réalité est un œil aveugle qui nous apprend à voir, et Helga est une parmi les abeilles de l'invisible. Ces innombrables films butinent silencieusement le pollen du visible et l'accumulent dans la grande ruche bourdonnante de l'invisible et de la projection Super 8. Je tiens à remercier les lectrices, lectrice abeille, Elsa Bress, Ouya Madad et les membres du comité du Camélia, composés de Noureda, Karine Doumit et Mira Adoumier. Je les remercie chaleureusement pour le voyage et le montage de cette polyphonie. Merci aussi et surtout à Helga Fanderl.
Lac. Lors d'une promenade d'automne, je découvre le lac. Sur la rive opposée, un petit tracteur rouge fait des allers-retours pour faire demi-tour et un feu s'allume dans le champ de pommes de terre et puis s'éteint. La scène rurale se reflète dans l'eau. Je ne filme que l'image miroir, en alternant la vitesse normale et accélérée. L'image est à la fois simple et complexe. Des ondulations sur l'eau la vivent. Les arbres groupés tout autour se reflètent eux aussi. En haut de l'image, le tracteur rouge, qui se trouve à l'envers, fait de petits mouvements saccadés. Lorsque le feu d'automne s'allume, feu et eau ne font plus qu'un. Et lorsqu'il s'éteint de nouveau, de délicats panaches de fumée passent sur le lac par minuscules saccades et se confondent avec sa peau. Ce premier film très court est le premier que j'ai reconnu. J'y ai trouvé mon propre langage cinématographique, un langage poétique purement visuel. Depuis, tout est épanouissement et approfondissement. Fille. Les filles portent de petites robes d'été rouges, bleues et jaunes, comme si elles venaient d'une époque révolue. Elles jouent à un vieux jeu. Comme des papillons colorés, elles volent de tronc d'arbre en tronc d'arbre, l'enlacent de leurs bras pour trouver une prise temporaire avant de s'enfuir à nouveau. L'image change toujours, comme changent toujours les constellations. Il s'agit de moments fugaces. Qui sait quand le jeu a commencé et quand il se terminera? Cette scène me fascine. De quelle distance puis-je capter le jeu des filles sans intervenir? Quels sont les rythmes de prise de vue qui correspondent à leur rythme? Comme dans chacun de mes films, je tente de saisir l'instant et de créer le film en allumant et en éteignant la caméra, sans montage ultérieur. Je suis les vols rapides des filles et capture aussi la brève interruption quand la fille en robe rouge se tord la cheville et doit se reposer sur un banc, tandis que le jeu se poursuit pendant un instant avant que toutes les autres ne se rassemblent autour d'elle. Je joue moi aussi. Je construis une chorégraphie cinématographique en soulignant le contraste entre la verticale rigide des arbres et des grilles à l'arrière-plan et les mouvements rapides des enfants et des taches de lumière et d'ombre dessinées sur le sol par un soleil de septembre. Les filles se livrent à leur jeu sauvage. Elles acceptent et oublient qu'elles sont filmées, jusqu'à ce que le petit accident les y arrache. L'une d'elles, portant un chemisier blanc, fait signe à la caméra. Lorsqu'elle me fait signe pour la deuxième fois, le film se termine. Scintillement du soir. À Evalik, sur la Méditerranée, chaque soir, un vent violent se levait soudainement alors que le soleil déversait sa lumière d'été tardive. Il agissait la mer et soufflait dans les branches du grand eucalyptus que je regardais d'en haut. Un jeu de lumière éclatait et je me mettais à filmer. Des étoiles dorées jaillissent de l'obscurité du feuillage dans lequel je zoome. Leur scintillement couvre l'image entière. Ce n'est que progressivement et tardivement que l'œil s'aperçoit que les rayons du soleil sont réfractés et réfléchis sur l'eau agitée et que les mouvements violents de l'eucalyptus ombragé renforcent ce feu d'artifice naturel. Arbre à kaki 3. En hiver, après les premières gelées, lorsque les fruits du kaki du jardin des plantes sont mûrs, une nuée d'oiseaux noirs se pose sur ses branches nues. Avec des coups de bec, ils ouvrent la peau lisse des boules rouge-orange et mangent la pulpe au moment où elle est la plus sucrée. Depuis que j'ai pu observer ce spectacle fugace pour la première fois, j'essaie de le filmer encore et encore. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple répétition. Je désire approfondir cette expérience, explorer et saisir la forte impression qui me touche. L'arbre, les oiseaux, le ciel, la lumière, la caméra et moi ne sommes plus les mêmes. Le moment de mon expérience doit coïncider avec le travail de la caméra. Je tiens moins à représenter l'arbre et la grande bouffe qu'à les explorer cinématographiquement, pénétrer ce qui se passe devant la caméra et en moi-même, m'approcher de ces dimensions plus profondes. Les regards de la caméra changent toujours et toujours. Je réagis aux changements rapides des scènes et aux déplacements de mon attention en changeant rapidement de cadrage, de focale et de vitesse des prises de vue. Je retrace d'innombrables facettes de l'interaction entre le kaki et les oiseaux, comment ils s'approchent, voltigent de branche en branche, piquant les fruits et s'envolent de nouveau. C'est ainsi que je souligne la tension entre l'architecture filigrane et immobile de l'arbre et la mobilité aisée des oiseaux, entre le clair et le sombre, la couleur magnifique des fruits du kaki et le branchage et le plumage presque noir.
Dans la neige. Il a commencé à neiger lorsque j'ai accompagné une amie dans l'enclos enneigé de ses chevaux. Grumpy, un cheval blanc, et Nico, un ongre foncé, étaient contents et se sont empressés de saluer leur propriétaire. À l'arrière-plan, un petit troupeau d'oies sauvages se mettait en marche pour faire une petite promenade, revenant et s'éloignant de l'étang en file indienne. Mon ami a incité ses grands chevaux à bouger eux aussi. La simultanéité des mouvements et des corps inégaux dans le paysage enneigé m'a motivé à filmer en alternant cette action parallèle. C'était bien que la caméra Super 8 soit chargée avec une cassette noir et blanc. Le noir et blanc souligne la qualité graphique et abstraite des images. Cheval blanc, cheval sombre, neige blanche, oie sombre, neige blanche, arbre sombre, neige blanche et les vêtements sombres de mon ami. Et tout à coup, les deux chevaux se sont mis à courir, à sauter et à danser ensemble. Cette brève danse était une expérience qui rend le film précieux pour moi, comme des flocons de neige qui tombaient sur l'objectif, ne faisant plus qu'un avec l'image du film. Reflet. Le jardin enchanteur d'Albert Kahn à Boulogne, dans la banlieue ouest de Paris, invite les visiteurs à parcourir différentes régions de végétation dans un espace limité. Entre la Chine et le Japon, il y a un petit paysage aquatique qui m'a parfois motivé à filmer. Un jour d'été, j'ai vu avec fascination une colline d'azalées en fleurs se refléter dans l'eau. Les fleurs de couleur pourpre ont été rejointes par des visiteurs debout et marchant à l'envers, portant des vêtements colorés. Des koïs multicolores sont passés à la recherche de nourriture. Le jeu complexe des couleurs et des corps m'a inspiré à l'exprimer cinématographiquement. Le cadrage se concentre sur le reflet. Je tourne surtout à la vitesse de 9 images par seconde. Cela intensifie les mouvements à la surface de l'eau et dans l'eau. Les céphalopodes ne marchent plus, mais traversent l'image par petits sauts. Parfois, je fais ressortir des détails. Alors, les aplats de couleurs deviennent plus intenses. Tout à coup, les premières gouttes de pluie tombent. Ils éclatent à la surface de l'eau et forment de petites ondes concentriques. Lorsque la pluie devient plus forte, l'illusion du reflet se dissout. Seuls les koïs nagent en chair et en os dans leur élément. Avec mon instrument caméra, j'improvise et joue de nombreuses voix et de nombreux rythmes. C'est une musique d'eau pour les yeux. Glacier. Lors d'une excursion en Engadine avec quelques amis, nous avons découvert un groupe de glaciers. Une vallée profonde nous séparait des montagnes couvertes de glace. Des nuages blancs flottaient dans le ciel bleu. J'ai ressenti une forte attraction qui s'est également emparée de mon corps, et je suis restée assise sur une pierre pendant que les amis faisaient une petite promenade. Je ne pouvais pas détourner mon regard. Je continuais à regarder, encore et encore. Comment filmer l'attrait et la fascination de ces glaciers immobiles? Je les ai zoomés, je les ai palpés avec l'œil de la caméra, rythmiquement de gauche à droite, de droite à gauche et inversement. Je les ai fait vibrer de manière cinématographique ainsi que les nuages. Je les ai fait disparaître dans le noir, apparaître et puis disparaître, jusqu'à ce qu'ils s'immobilisent de nouveau à la fin du film.
Récolte des pommes. Le père d'une amie avait créé un grand verger de pommiers. Chaque année après sa mort, la famille se retrouvait un jour d'automne pour récolter les pommes et les porter au pressoir. Mon amie pensait que cette action pourrait m'inspirer. Elle avait raison. Quel spectacle de voir comment les arbres étaient secoués dans tous les sens en même temps. Comment les fruits mûrs se détachaient et comment d'autres auraient aimé rester là, résistant jusqu'à ce qu'ils doivent céder. Comment il pleuvait des pommes, comment on les ramassait et les jetait dans des boîtes en bois à portée de main. Je découvre rapidement ce sur quoi je veux me concentrer. Un homme est debout dans un arbre et fait vibrer les branches en donnant des coups de pied vigoureux. Le bleu de ses vêtements de travail lui à travers les feuilles et le branchage. Je filme les pommes secouées qui se balancent, se tordent et résistent. Je les filme qui tombent par terre et qui rebondissent, sautant et dansant joyeusement comme des enfants. Je les vois et les filme en tant qu'êtres vivants. Quand j'ai projeté le film développé pour la première fois, j'ai remarqué que les couleurs étaient plus froides que prévu, et j'ai compris pourquoi. Par erreur, le curseur du filtre de la caméra était réglé sur la lumière artificielle au lieu de la lumière du jour. J'aime la réduction des couleurs, surtout ce vert inhabituel. L'erreur était un heureux hasard. Fontaine. La vaste fontaine est un terrain de jeu idéal pour les jours très chauds d'été. De nombreux jets d'eau jaillissent et retombent à des rythmes et hauteurs qui changent jusqu'à ce qu'ils s'éteignent par moments avant de rejaillir de nouveau. Lorsque j'ai vu la fontaine pour la première fois, un groupe de garçons venus peut-être de la banlieue parisienne jouait à un jeu insolite avec des bâtons de hockey. Ils utilisaient les bâtons pour danser avec l'eau. Chacun frappait son jet d'eau à son propre rythme, se balançant et profitant de sa force et de sa souplesse. Tout s'intégrait dans la chorégraphie des nombreux jaillissements et des autres enfants. L'image a une structure et un rythme de base fascinant. Pour les préserver et capter, je choisis un cadrage unique, une seule focale, comme une seule vitesse d'enregistrement, dans un léger ralenti, et je filme en plan séquence. Par une simplification extrême du style, j'essaie de dégager l'essentiel de cette scène en soulignant la densité et la simultanéité des événements. Les garçons insouciants jouent comme si le monde autour d'eux n'existait plus. La caméra n'intervient pas. Lorsque les jets d'eau s'éteignent brièvement vers la fin du film, les garçons dansent de joie. Puis ils préparent leur bâton de hockey pour frapper de nouveau. Mais un petit garçon abandonne le jeu parce que son coup était trop fort. Que la cassette, tout comme le film, se termine juste à ce moment, me semble être une coïncidence heureuse. Feuille morte. Au parc floral à Paris, j'observe un jardinier. Il se sert d'un souffleur portable pour balayer des feuilles mortes, de chasser devant lui les feuilles brunes à travers la pelouse verte, les souffle en l'air, les ramasse avec un râteau et les entasse. La lumière intense de l'après-midi illumine la scène et projette des ombres. Je commence à filmer les mouvements rapides du jardinier et des feuilles, qui tourbillonnent dans l'air et tombent comme une pluie d'or à contre-jour. Dessiner des pavés. De nouveaux pavés sont posés dans la rue. Je passe par hasard au moment où les joints sont remplis de goudron. Un ouvrier dessine les contours des petits cubes de pierre, avec une barre, tel un crayon à dessin, d'où s'écoule le liquide visqueux noir. Ce travail manuel m'impressionne. En regardant par le viseur de la caméra, je vois en gros plan des barrières rouges orangées en plastique qui se superposent à l'image comme un filet à grosses mailles. Les formes colorées abstraites soulignent la planiété de l'image en deux dimensions du film, tandis que je suis les mouvements du bec de goudron à travers les interstices. Je commence déjà à filmer. Les couleurs des barrières et des pierres changent en fonction de la lumière. La vitesse à laquelle la barre est manipulée varie également. Parfois, l'acte de dessiner les pavés s'interrompt brièvement, puis continue, parfois avec fluidité, parfois avec hésitation. Je me sens comme envoûtée. De temps en temps, je zoome à travers les trous dans les barrières, je filme le processus en gros plan, avant de retrouver le cadrage qui intègre à nouveau la structure des barrières. C'est un film calme, qui rend visible la qualité esthétique et les rythmes d'un geste de travail quotidien, et joue avec la tension entre figuration et abstraction.
Jeux d'eau. Des enfants s'amusent avec des jeux d'eau dans les nouveaux jardins des Halles parisiennes. Par intervalles, un brumisateur vaporise de très fines gouttelettes dans lesquelles ils semblent disparaître. Les couleurs de leurs légers vêtements d'été brillent dans la lumière de l'après-midi et se reflètent lorsque la brume se lève. Quand je commence à filmer, je remarque que la caméra ne m'obéit pas. J'appuie sur le déclencheur, mais elle se refuse encore et encore, avant de tourner brièvement de façon inattendue. Je n'abandonne pas le combat, tant la vue me fascine. Je ne peux pas prévoir si quelque chose apparaîtra sur la pellicule et ce que ce sera. Il est impossible de contrôler la structure rythmique du film. La caméra est devenue indépendante. Le résultat de cette aventure a récompensé mes efforts. Le dysfonctionnement, peut-être dû à la faiblesse des piles, a fait apparaître de brèves images qui surgissent du noir et disparaissent de nouveau dans le noir de la pellicule. Grâce au contraste et à la fragmentation temporelle, il gagne en intensité de couleur et de mouvement. J'accepte volontiers le don du hasard. Portrait. Avant de devoir le laisser pendant longtemps, j'ai fait un petit voyage au bord de la mer avec l'homme que j'aimais. Je désirais le filmer comme si je pouvais l'emmener au loin avec moi. Il a accepté, sans pouvoir s'imaginer ce que cela signifiait. Il devait supporter que je pointe sur lui la caméra, en forme de revolver, encore et encore, et de filmer de petites unités d'image par image. Clac, 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 clac. Je pensais créer un portrait composé de nombreux fragments. Un tissu dense de brèves séquences rythmiques, interrompues et scandées par de minuscules pauses de film noir, afin de garder une continuité et une cohérence pendant plusieurs jours et changements de lieu. Je condense et anime ses gestes, ses regards et son sourire. Il y a une alternance de séquences en accéléré et de moments plus calmes. Lorsque je le filme en gros plan, c'est comme si la caméra caressait sa bouche, ses oreilles, ses yeux, ses mains et ses pieds. Par deux fois, j'essaie de l'embrasser en filmant. Les petites pauses noires dynamisent les images. Elles les rendent plus plastiques et en accentuent les couleurs. Tout est animé dans un double sens. Ombre 1. Sur la plage d'une petite île de la Méditerranée, la lumière du matin projette mon ombre sur le grain fin du sable volcanique. Le ressac l'efface et il revient lorsque les vagues de la mer se retirent. L'apparition et la disparition de mon image sombre m'étonne et me touche. Quelle étrange rencontre avec le caractère éphémère de ma vie. Je filme en rythme calme les séquences de mouvement, le dessin de la figure abstraite, les grains volcaniques sombres qui scintillent au soleil et l'écume blanche qui les recouvre. Le film en noir et blanc montre de manière simple la mer qui respire, les moutons d'écume qui se déversent et le va-et-vient de la figure de l'ombre qui filme.
Vert. C'était une journée d'hiver froide et lumineuse à Rotterdam. Au lieu de regarder des films du festival, j'ai fait un petit tour en bateau, du port intérieur, et j'ai filmé la grande ville de containers et ses surfaces colorées, abstraites, carrées et rectangulaires, qui passaient devant moi et se reflétaient dans l'eau d'un bleu profond. J'ai failli me geler les doigts, mais j'étais satisfaite de mes prises de vue. J'ai terminé le film et me suis enfuie à l'intérieur du bateau pour me réchauffer. Au-dessus du bar, j'ai vu sur une étagère suspendue des verres retournés dans lesquels la lumière du soleil se brisait de temps en temps. J'ai immédiatement oublié de commander une boisson chaude et de nouveau pris ma caméra. Dans le viseur, j'ai vu trois bandes horizontales divisant l'image. L'étagère avec les verres au milieu. Au-dessus, un paysage portuaire et industriel. Et au-dessous, l'eau sur laquelle le bateau glissait. Le film suit le voyage des verres immuables à l'intérieur du bateau et le monde extérieur qui change en passant. Je crée un flux calme du temps cinématographique jusqu'à ce que le bateau s'arrête et qu'un cadrage plus grand n'élargisse la vue de l'espace intérieur vers l'espace extérieur urbain. Color Run. Au loin, j'entends de la musique venant de puissants haut-parleurs. Je la suis. En bas du pont neuf, je vois une foule immense de personnes, jeunes pour la plupart, en rang serré, tous vêtus de blanc, marchant sur place, entre le mur du quai et la Seine, se balançant et levant les bras au rythme de la musique forte. Parfois, ils veulent se mettre à courir, mais s'arrêtent vite. Ils attendent le début d'un color run dans les rues de Paris pour se lancer des poudres colorées. Sur leurs t-shirts, petits sacs à dos et bandeaux blancs, ils portent les logos de sponsors. De cette manifestation émane une vitalité formidable. Je filme en noir et blanc, captant les rythmes des mouvements, les intensifiant et les modifiant, scandant les images avec de brèves pauses de films noirs. La foule entassée ressemble à un troupeau joyeux ou à des soldats joyeux d'aller à la guerre. Léopard. Pendant longtemps, dans les petits zoos du jardin des plantes, j'ai rendu visite à un léopard qui faisait ses ronds toujours identiques et limités. Je ne me lassais pas de suivre des yeux ses mouvements, souples, longeant les barreaux, la douce manière de poser ses pattes, le dessin de sa fourrure et ses couleurs chaudes, le doux duvet blanc sur son ventre, le rythme de son pas et la lueur de ses yeux. Mais l'animal superbe était malade, contraint de vivre contre sa nature. Il était solitaire et malade. Je revenais souvent avec ma caméra, m'asseyais sur le banc d'en face et lui parlais. J'ai mis longtemps à trouver une réponse cinématographique à mon expérience. Un jour, une lumière intense de fin d'après-midi a fait briller la fourrure du léopard. J'ai trouvé un cadrage dans lequel les barreaux restaient invisibles, mais jetaient leurs ombres à l'intérieur de la cage. J'avais l'impression de connaître par cœur chaque mouvement de l'animal qui m'était devenu si familier. J'ai donc réussi à pressentir le rythme de son allure et de ses rondes éternellement identiques, de son apparition et de sa disparition, et de son regard insondable, et de le filmer de telle sorte que l'étonnement et l'admiration, la compassion et le regret s'équilibrent. Pour M. Après que l'homme que j'aimais soit mort et que je lui ai fait mon dernier adieu, il m'a semblé que je devais lui faire un cadeau, même s'il ne pouvait plus le recevoir. Où aller avec ma tristesse? Soudain, je me suis souvenu d'un petit champ de fleurs que j'avais admiré quelques jours plus tôt au parc de Bagatelle. Dans mon esprit, les couleurs et les formes des fleurs cosmos se mettaient à briller, se détachant sur le vert intense du pré. C'est vers là-bas que je me sentais attirée. J'ai pris ma caméra avec moi. Une légère brise berçait les fleurs délicates sur leurs tiges filigranes. J'ai commencé à filmer le champ de fleurs, et chaque fleur, encore et encore, comme si je voulais les embrasser. Leurs couleurs m'ont envoûtée. J'ai ajouté des rythmes cinématographiques aux petits souffles d'air qui les faisaient dodeliner de la tête. J'ai filmé en gros plan les fleurs à la forme d'étoiles, les unes après les autres, puis de nouveau le groupe entier. Je suis entrée dans une sorte de transe. Je me suis perdue dans les images. J'ai senti la proximité des fleurs devant la caméra et de l'homme absent à qui je les ai dédiées. Le film préserve ses expériences intimes. Il a quelque chose de mystérieux. Par moments, les images deviennent diaphanes et les couleurs si intenses, comme si elles n'étaient pas de ce monde.